Le testament d'un excentrique, troisième partie. Oxwoods. Ce nom d'Oxwood indique que l'emplacement occupé par le cimetière fut autrefois couvert d'une forêt de chênes, l'arbre par excellence de ces vastes solitudes de l'Illinois, jadis dénommé Prairie State à cause de l'exubérance de sa végétation. De tous les monuments funéraires qu'il contenait, plusieurs de haut prix, aucun ne pouvait être comparé à celui que William J. Hyperbone avait fait édifier quelques années avant pour son usage personnel. On le sait, les cimetières américains, comme les cimetières anglais, sont de véritables parcs. Rien n'y manque de ce qui peut enchanter le regard, ni pelouse, ni ombrage, ni eau courante. Il ne semble pas que l'âme puisse s'y attrister. Les oiseaux y gazouillent plus joyeusement qu'ailleurs, peut-être parce que leur sécurité est complète en ces champs consacrés au suprême repos. C'était près d'un petit lac, aux eaux calmes et transparentes, que s'élevait le mausolée, construit sur les plans et par les soins de l'honorable William J. Hyperbone. Ce monument, dans le goût de l'architecture anglo-saxonne, se prêtait à toutes les fantaisies de ce style gothique qui touche à la Renaissance. Il tenait à la fois de la chapelle, par sa façade, surmontée d'un clocher dont la flèche pointait à une centaine de pieds au-dessus du sol, de la villa ou du cottage, par la disposition de sa toiture et de ses fenêtres doublées de windows en forme de mirador à vitrail colorié. Le clocher, orné de crosses et de fleurons, supporté sur les contreforts de la façade, renfermait une cloche d'une sonorité puissante qui battait les heures de l'horloge lumineuse posée à sa base. La voix métallique de cette cloche, lorsqu'elle s'échappait à travers les auvents ajourés et dorés, se faisait entendre au-delà de l'enceinte d'Oxwood, jusqu'aux rives du Michigan. Le monument mesurait 120 pieds de longueur, sur une largeur de 60 à son transept. Il affectait en plan géométral la forme d'une croix latine, terminée par une abside en rotonde. La grille qui l'entourait, beau travail de ferronnerie d'aluminium, s'appuyait de distance en distance aux colonnes des lampadaires. Au-delà se groupaient de magnifiques arbres d'une verdure persistante, entre lesquels s'encadrait le superbe mausolée. La porte de cette grille, ouverte alors, donnait accès sur une allée bordée de massifs et de corbeilles jusqu'au pied d'un perron de 5 marches de marbre blanc. Au fond d'un large palier s'évidait un portail au battant de bronze dont les découpures représentaient des entrelacements de fruits et de fleurs. Cette entrée desservait une antichambre, meublée de divans à gros clous d'or et ornée d'une jardinière de porcelaine chinoise dont les bouquets étaient fréquemment rafraîchis. À la voûte pendait un lustre de cristal à 7 branches, garni d'ampoules électriques. Par des bouches de cuivre, ménagées aux angles, s'évaporait la température égale et douce d'un calorifère, entretenu pendant la saison froide par le gardien d'Oxwoods, et qui fournissait l'air chaud à l'intérieur du monument. En poussant les panneaux de glace d'une porte faisant face au portail du perron, on pénétrait dans la pièce principale de l'édifice. C'était un hall spacieux, de forme circulaire, où se déployait le luxe extravagant permis à un archimillionnaire, qui veut se continuer après sa mort les opulences de sa vie. À l'intérieur, la lumière se versait généreusement par le plafond de verre dépoli qui fermait la partie supérieure de la voûte. À la surface des murs couraient des arabesques, des rinceaux, des listelles, des bossages, des fleurons, des vermicules, aussi finement dessinés et sculptés que ceux d'un alhambra. Leur base disparaissait derrière les divans aux étoffes éclatantes. Çà et là se dressaient des statues de bronze et de marbre, faunes et nymphes. Entre les piliers d'un stuc éblouissant, sur lesquels reposaient les nervures de la voûte, on pouvait admirer quelques tableaux de maîtres modernes, la plupart des paysages, dans leurs bordures d'or piquées de points lumineux. D'épaisses bandes de tapis moelleux recouvraient le pavé décoré de mosaïques miroitantes. Au-delà du hall, au fond du mausolée, s'arrondissait l'abside, éclairée par une large verrière dont les splendides vitraux s'enflammaient lorsque le soleil, à son déclin, les frappait de ses obliques rayons. Cette abside était garnie de tous les objets de l'ameublement moderne. Fauteuils, chaises, rocking chairs, canapés l'encombraient dans un désordre voulu. Sur une table gisaient pêle-mêle livres et brochures, journaux et revues de l'Union et de l'étranger. Derrière ces vitres, un dressoir, pourvu de sa vaisselle, offrait les diverses variétés d'un encas, toujours servi, chaque jour renouvelé, conserves délicates, onctueuses, sandwichs, gâteaux secs, flacons de vin fin, fioles de liqueur, qui étincelaient de marques illustrées. Quel endroit heureusement disposé, on l'avouera, pour la lecture, la sieste ou le luncheon. Au centre du hall, baigné de la lumière que le dôme laissait filtrer par les glaces, se dressait un tombeau de marbre blanc, enrichi de fines sculptures dont les angles reproduisaient la figure d'animaux héraldiques. Ce tombeau, entouré d'un cercle d'ampoules en pleine incandescence, était ouvert, et la pierre qui devait s'y rabattre avait été redressée. C'était là qu'allait être placé le cercueil dans lequel le corps de William J. Hepburn reposait sur son capitonnage de satin blanc. Assurément, un tel mausolée ne pouvait inspirer des idées funèbres. Il évoquait plutôt la joie que la tristesse. À travers l'air pur qui le remplissait, on ne sentait pas ce frôlement des ailes de la mort qu'il palpite au-dessus des tombes d'un cimetière. Et pour tout dire, n'était-ce pas le monument digne de l'original américain à qui on devait le si peu attristant programme de ses funérailles et devant lequel allait s'achever cette cérémonie où les chants d'allégresse s'étaient mêlés aux joyeux hurrahs de la foule. Il est à noter que William J. Hepburn ne manquait jamais de venir deux fois chaque semaine, le mardi et le vendredi, passer quelques heures à l'intérieur de son mausolée. De temps en temps, plusieurs de ses collègues l'accompagnaient. En somme, c'était un lieu de conversation des plus confortables et des plus tranquilles. Étendu sur les divans de l'abside, assis devant la table, ces honorables personnages faisaient la lecture, s'entretenaient de la politique du jour, du cours des valeurs et des marchandises, des progrès du jingoïsme, autrement dit, du chauvinisme dans les diverses classes de la société, des avantages ou des désavantages du Bill McKinley dont les esprits sérieux se préoccupaient sans cesse. Et, tandis qu'ils devisaient ainsi, les domestiques présentaient les plateaux du lunch. Puis, l'après-midi écoulé en des conditions si agréables, les équipages remontaient Grove Avenue et ramenaient à leurs hôtels les membres de l'excentrique club. Il va sans dire que nul ne pouvait pénétrer, si ce n'est le propriétaire, dans son « cottage d'Oxwood », comme il l'appelait. Le gardien du cimetière, chargé de l'entretien du dit cottage, en possédait seul une seconde clé. Décidément, si William J. Hepburn ne s'était guère distingué de ses semblables dans les actes de sa vie publique, du moins sa vie privée, partagée entre le cercle de Mohawk Street et de Mausolée Oxwood, présentait-elle certaines bizarreries qui permettaient de le ranger parmi les excentriques de son temps. Il n'aurait plus manqué, pour reculer l'excentricité à ses dernières limites, que le défunt n'eût pas réellement trépassé. Or, ses héritiers, quels qu'ils fussent, pouvaient être rassurés à cet égard. Il n'y avait pas là un cas de mort apparente, mais un cas de mort définitive. À cette époque, d'ailleurs, on appliquait déjà les rayons ultra-X du professeur Friedrich Delbing, Prusse, connu sous le nom de Kritikskahn. Ces rayons possèdent une force de pénétration si intense qu'ils traversent le corps humain et jouissent de cette propriété singulière de produire des images photographiques différentes suivant que le corps traversé est mort ou vivant. Or, L'épreuve avait été tentée sur William J. Hyperbone et les images obtenues ne pouvaient laisser aucun doute dans l'esprit des médecins. La défunctuosité, ce fut le mot dont ils se servirent dans leur rapport, était certaine et ils n'auraient pas à se reprocher l'erreur d'une inhumation trop hâtive. Il était 5h45 lorsque le char franchit la porte d'Oxwoods. C'était dans la partie médiane du cimetière, à la pointe du lagon, que se dressait le monument. Le cortège, dans son ordre immuable, accru d'une foule plus bousculante que les agents avaient grand-peine à maintenir, se dirigea vers le lagon sous le couvert des grands arbres. Le char s'arrêta devant la grille, dont les candélabres jetaient les éblouissantes clartés de leurs lampes à arc au milieu des premières ombres du soir. En somme, une centaine d'assistants, au plus, pouvaient trouver place à l'intérieur du mausolée. Si donc le programme des obsèques comportait encore quelques numéros, il faudrait qu'ils fussent exécutés à l'extérieur. Et en effet, les choses allaient se passer de la sorte. Le char arrêté, les rangs se resserrèrent, tout en respectant les 6 teneurs de guirlande qui devaient accompagner le cercueil jusqu'à son tombeau. Il s'élevait un bruit confus de cette foule, avide de voir, avide d'entendre. Mais peu à peu, le tumulte s'apaisa, les groupes s'immobilisèrent, les murmures s'éteignirent, le silence régna autour de la grille. C'est alors que furent prononcées les paroles liturgiques par le révérend Bingham, qui avait suivi le défunt jusqu'à sa dernière demeure. L'assistance les écouta avec recueillement. Et à cet instant seul, les obsèques prirent un caractère religieux. À ces paroles, dites d'une voix pénétrante qui s'entendit au loin, succéda l'exécution de la célèbre marche de Chopin, d'un effet si pénétrant dans les cérémonies de ce genre. Mais peut-être l'orchestre l'enleva-t-il d'un mouvement un peu plus vif que ne le portent les indications du maître symphoniste, mouvement qui correspondait mieux aux dispositions de l'auditoire et aussi du décédé. On était loin des sentiments dont Paris s'inspira aux funérailles de l'un des fondateurs de la République, lorsque la Marseillaise, d'une tonalité si éclatante, fut jouée sur le mode mineur. Après ce morceau de Chopin, le clou du programme, un des collègues de William J. Hyperbone, celui avec lequel il s'était lié d'une plus étroite amitié, le président George B. Higginbotham, se détacha du groupe, vint se placer devant le char, et alors, dans une brillante oraison, il retraça en termes apologétiques le curriculum vitae de son ami. À 25 ans, déjà possesseur d'une certaine fortune, William J. Hyperbone sut la faire fructifier. Et ses heureuses acquisitions de terrain, dont le yard superficiel vaut actuellement ce qu'il faudrait d'or pour le couvrir, et son élévation au rang des millionnaires de la cité, autant dire les grands citoyens des États d'Amérique. Et l'actionnaire avisé des puissantes compagnies des Railroads de la Fédération, et le prudent spéculateur lancé dans les affaires qui rapportent de gros intérêts, et le généreux donateur, toujours prêt à souscrire aux emprunts de son pays le jour où son pays eut éprouvé le besoin d'emprunter, besoin qu'il n'éprouva pas. Et le distingué collègue que perdait en lui le club des excentriques, le membre sur lequel on comptait pour l'illustrer. L'homme qui, si son existence se fût prolongée au-delà de la cinquantaine, eût étonné l'univers. D'ailleurs, il est de ces génies qui ne se révèlent que lorsqu'ils ne sont plus. Sans parler de ces funérailles accomplies dans les circonstances que l'on sait, au milieu du concours d'une population tout entière, il était à croire que les suprêmes volontés de William J. Hyperbone imposeraient des conditions exceptionnelles à ses héritiers. Nul doute que son testament contint des clauses de nature à provoquer l'admiration des deux Amériques, qui valent à elles seules les 4 autres parties du monde. Ainsi parla George B. Higginbotham, non sans produire une générale émotion. Il semblait que William J. Hyperbone allait apparaître aux yeux de la foule, agitant d'une main l'acte testamentaire qui devait immortaliser son nom, et de l'autre versant sur la tête des six les millions de sa fortune. Au discours du plus intime des amis du défunt, le public répondit par des murmures flatteurs qui gagnèrent peu à peu jusqu'au dernier rang dans l'enceinte d'Oxford. Ceux qui avaient entendu communiquèrent leur impression à ceux qui n'avaient pu entendre et qui ne furent pas les moins attendris de l'auditoire. Puis, l'Orphéon et l'orchestre, unis dans un bruyant ensemble de voix et d'instruments, exécutèrent le formidable Alléluia du Messie de Handel. La cérémonie touchait à sa fin. Les numéros du programme étaient épuisés, et cependant, on eût dit que le public s'attendait à quelque chose d'extraordinaire, peut-être de surnaturel. Oui, telle était la surexcitation des esprits que personne n'eût trouvé surprenante une modification soudaine aux lois de la nature, quelques figures allégoriques apparaissant dans le ciel, ainsi qu'autrefois à Constantin la croix de Lin Hoc Signo Vinces, l'arrêt subit du soleil, comme au temps de Josué, afin d'éclairer cette grande manifestation pendant une heure encore. Enfin, un de ces faits miraculeux dont les plus farouches libres penseurs n'eussent pu nier l'authenticité. Mais cette fois, l'immutabilité des lois de la nature resta intacte et l'univers ne fut point troublé par des phénomènes d'ordre supérieur. Le moment était venu de retirer la bière du char, de la conduire à l'intérieur du hall, de la déposer dans le tombeau. Elle devait être portée par 8 domestiques du défunt, revêtus de leur livrée de gala. Ils s'approchèrent, la dégagèrent des tentures qui la recouvraient, la placèrent sur leurs épaules et se dirigèrent vers la porte de la grille. Les 6 marchaient dans l'ordre et à la place qu'ils avaient conservée depuis le départ de l'hôtel de la Salle Street. Ceux de droite tinrent de la main gauche, ceux de gauche tinrent de la main droite les poignées d'argent du cercueil, conformément à l'invitation qui leur fut faite par le maître des cérémonies. Les membres de l'excentrique club, les autorités civiles et militaires, marchaient à leur suite. Puis, la porte de la grille se referma, et c'est à peine si l'antichambre, le hall, l'abside du mausolée suffisaient à les contenir tous. Au dehors se massèrent les autres invités du cortège, la foule se rabattit des divers points du cimetière d'Oxford et des grappes humaines se suspendirent aux branches des arbres qui entouraient le monument. En cet instant, les trompettes de la milice éclatèrent à crever les poumons qui les emplissaient de leur souffle, et l'on aurait pu se croire dans la vallée de Josaphat au début des grandes assises du jugement dernier. Alors, se fit un immense lâcher d'oiseaux, enrubanné de bandelettes multicolores qui s'éparpillèrent à la surface du lagon, au-dessus des ramures, poussant de joyeux cris de délivrance. Et il sembla que l'âme du défunt, emportée dans leur vol, s'enlevait à travers les profondeurs du ciel. Dès que les degrés du perron eurent été gravis, le cercueil franchit le premier portail, puis le second, s'arrêta à quelques pas du tombeau, dans lequel les porteurs l'introduisirent. La voix du révérend Bingham se fit de nouveau entendre, demandant à Dieu d'ouvrir largement les portes célestes à feu William J. Hyperbone et de lui assurer l'éternelle hospitalité du ciel. « Honneur à l'honorable Hyperbone !» prononça d'une voix haute et claire le maître des cérémonies. « Honneur ! Honneur ! Honneur !» répétèrent par 3 fois les assistants. Et après eux, au dehors, des milliers de bouches lancèrent ce dernier adieu dans l'espace. Alors les 6 firent processionnellement le tour du tombeau, reçurent le salut de George B. Higginbotham au nom des membres de l'excentrique club et se disposèrent à quitter le hall. Il n'y avait plus qu'à laisser retomber la lourde plaque de marbre où seraient gravés les noms et titres du défunt. Maître Tonbrock fit quelques pas en avant, Puis, après avoir tiré de sa poche la note relative aux funérailles, il en lut les dernières lignes ainsi conçues. « Ma volonté est que mon tombeau reste ouvert pendant 12 jours encore, et que, ce délai écoulé, dans la matinée du dit 12e jour, les 6 personnes désignées par le sort, qui ont suivi mes funérailles, viennent déposer leur carte de visite sur mon cercueil. Alors, la pierre tombale sera mise en place, et Maître Thornbrock viendra, le 10 jour, à midi sonnant, dans la salle de l'auditorium, donner la lecture de mon testament qui est entre ses mains. » William J. Hyperbone. Décidément, c'était un original, le défunt. Et qui sait si cette originalité posthume serait la dernière? L'assistance se retira et le gardien du cimetière referma les portes du monument, puis celles de la grille. Il était près de 8 heures. Le temps n'avait pas cessé de se tenir au beau. Il semblait même que la sérénité du ciel fût plus complète encore au milieu des primes ombres du soir. D'innombrables étoiles scintillaient au firmament, ajoutant leur douce clarté à celle des lampadaires qui brillaient autour du mausolée. La foule s'écoula lentement par les diverses issues du cimetière, désireuse de repos à la fin d'une si fatigante journée. Pendant quelques instants, un tumultueux bruit de pas troubla les rues avoisinantes, et la tranquillité régna enfin dans ce lointain quartier d'Oxfords. Chapitre 4. Les 6. Le lendemain, Chicago vaquait à ses multiples occupations. Les divers quartiers avaient repris leur physionomie quotidienne. Si la population ne se déroulait plus comme la veille le long des avenues et des boulevards, sur le passage d'un convoi funèbre, elle ne s'en intéressait pas moins aux surprises que lui réservait sans doute le testament de William J. Hyperbone. Quelles clauses renfermait-il? Quelles obligations, bizarres ou non, imposait-il aux 6? Et comment serait-il mis en possession de son héritage? En admettant que tout cela n'aboutit pas à quelque mystification d'outre-tombe, bien digne d'un membre de l'excentrique club. Eh bien, cette éventualité, personne n'eût voulu l'admettre. On se refusait à croire que Miss Lissy Wagg, messieurs Hurricane, Campbell, Tibury, Crabbe et Weal, dussent ne trouver dans cette affaire que beaucoup de déception avec beaucoup de ridicule. Assurément, il y aurait eu un moyen très simple de satisfaire la curiosité publique, d'une part, et de l'autre, d'arracher les intéressés à cette incertitude qui menaçait de leur couper l'appétit et le sommeil. Il suffisait d'ouvrir le testament et d'en prendre connaissance, mais défense formelle était faite de procéder avant le 15 courant, et Maître Thornbrock n'eut jamais consenti à enfreindre les conditions imposées par le testateur. Le 15 avril, dans la salle du théâtre de l'auditorium, en présence de la nombreuse assistance qu'elle pourrait contenir, il serait donné lecture du testament de William J. Hyperbone. Le 15 avril, à midi, pas un jour plus tôt, pas une minute plus tard. Donc, obligation de se résigner. Ce qui d'ailleurs ne ferait qu'accroître la surexcitation des cerveaux chicagois à mesure que s'approcherait la date fatale. Au surplus, les 2200 journaux quotidiens, les 15 000 autres publications hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles des États-Unis, allaient entretenir cette surexcitation. Et au total, s'ils ne pouvaient, même par supposition, pressentir les secrets du défunt, il se promettait de soumettre chacun des 6 aux tortures de l'interview et tout d'abord d'établir leur situation sociale. Lorsqu'il aura été dit que la photographie ne se laisserait pas devancer par les journaux, que des portraits en grand ou en petit, en pied, en tête ou en buste ne tarderaient pas à être jetés dans la circulation par centaines de mille, on admettra sans peine que les 6 fussent destinés à prendre rang parmi les personnages les plus en vue des États-Unis d'Amérique. Les reporters du Chicago Mail qui se présentèrent chez Hodge Hurricane, 73 Randolph Street, se virent assez mal accueillis. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» leur fut-il répondu avec une violence nullement affectée. « Je ne sais rien. Je n'ai rien à vous dire. J'ai été invité à suivre le cortège. Je l'ai suivi. Et encore, il y en avait-il 5 comme moi, en file, près du char. 5 que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et si cela finissait mal pour quelques-uns d'entre eux, cela ne m'étonnerait pas. J'étais là comme un chaland à la remorque d'un tug, sans pouvoir écumer à mon aise en épanchant ma bile. Ah, ce William Hyperbone, Dieu ait son âme, et qu'il la garde surtout, s'il m'a joué, s'il me force à amener mon pavillon devant ces 5 intrus, et qu'il prenne garde à lui. Et tout défunt, tout enterré qu'il est, dussé-je attendre jusqu'au jugement dernier, je saurais bien. » Mais, lui objecta un des reporters courbé sous cette rafale, « rien ne vous autorise à croire, monsieur Hurricane, que vous soyez exposé à une mystification, que vous ayez à regretter d'avoir été un des élus du sort, et quand vous n'auriez pour votre part qu'un 1/6 de l'héritage. » « Un 1/6 !» riposta le bouillant interviewé d'une voix de tonnerre. « Et ce 1/6, suis-je seulement assuré de le toucher intégralement ?»« Calmez-vous, de grâce !»« Je ne me calmerai pas. Il n'est pas dans ma nature de me calmer. J'ai l'habitude des tempêtes, et je me suis toujours montré plus tempétueux qu'elle. » « Il ne s'agit pas de tempête, » fit observer le reporter. « L'horizon est serein. » « C'est ce que nous verrons, monsieur !» s'écria l'irascible Américain. « Et si vous occupez le public de ma personne, de mes faits, de mes gestes, attention à ce que vous direz, ou vous aurez affaire au Commodore Hurricane. » C'était en effet un Commodore, Hodge Hurricane, officier de la marine des États-Unis, à la retraite depuis 6 mois, ce dont il ne pouvait se consoler. Un bon et brave marin, en somme, qui avait toujours su faire son devoir devant le feu de l'ennemi comme devant le feu du ciel. Malgré ses 52 ans, il n'avait rien perdu de son irritabilité naturelle. Que l'on se figure un homme vigoureusement constitué, taille élevée, carrure puissante, tête forte, à gros yeux roulant sous des sourcils en broussaille, front un peu bas, cheveux tondus de près, menton carré agrémenté d'une barbiche qu'il fourrage sans cesse d'une main fébrile, bras solidement emmanchés, jambes régulièrement arquées, imprimant au torse ce mouvement de roulis spécial aux gens de mer. D'un caractère emporté, toujours le mort aux dents, incapable de se posséder, aussi désagréable que le peut être une créature humaine dans la vie privée, comme dans la vie publique, on ne lui connaissait pas un ami. Il serait surprenant qu'un pareil type eût été marié. Aussi ne l'était-il pas. Et quelle chance pour sa femme ! Répétait volontiers les mauvais plaisants. Il appartenait à cette catégorie de violents que la colère fait pâlir en déterminant un spasme du cœur, dont le corps se porte en avant comme pour l'attaque, dont les pupilles ardentes sont en un perpétuel état de contraction, et dans la voix desquelles il y a de la dureté, alors même qu'ils sont calmes, et du rugissement quand ils ne le sont pas. Lorsque les chroniqueurs du Chicago Globe vinrent frapper à la porte de l'atelier de South Astrid Street, au numéro 3997, la rue est de belle longueur, on le voit, ils ne trouvèrent personne au logis, si ce n'est un jeune noir de 17 ans, au service de Max Real, qui leur ouvrit. « Où est ton maître ?» lui demanda-t-on. « Je ne sais pas. » « Et quand est-il parti ?»« Je ne sais pas. » « Et quand reviendra-t-il ?»« Je ne sais pas. » Et en effet, Tommy ne savait pas, parce que Max Real était sorti de grand matin sans rien dire à Tommy, lequel aimait à dormir comme un enfant, et que son maître n'eût pas voulu tirer de sommeil de si bonne heure. Mais de ce que Tommy ne pouvait répondre aux demandes des reporters, il ne faudrait pas en conclure que le Chicago Globe manquerait d'informations au sujet de Max Real. Non, ce 6 avait été déjà l'objet d'interviews fort répandues aux États-Unis. C'était un jeune peintre de talent, un paysagiste dont les toiles commençaient à se vendre à haut prix en Amérique et auquel l'avenir réservait une belle situation dans le domaine de l'art. Né à Chicago, si son nom était d'origine française, c'est qu'il descendait d'une famille canadienne de Québec. Là demeurait encore Madame Réal, veuve depuis quelques années, qui se disposait à venir s'installer près de lui dans la métropole illinoise. Max Réal adorait sa mère, qui lui rendait la même adoration. Une excellente mère et un excellent fils. Aussi n'avait-il pas voulu tarder d'un jour pour la mettre au courant de ce qui s'était passé et comment il avait été désigné pour prendre une place spéciale aux obsèques de William J. Hyperbone. Il l'assurait d'ailleurs qu'il ne s'emballait guère sur les conséquences des dispositions testamentaires du défunt. Cela lui semblait drôle, voilà tout. Madame Réal venait d'atteindre sa 25e année. Il tenait de sa naissance la grâce, la distinction, l'élégance du type français. Il était d'une taille au-dessus de la moyenne, châtain de cheveux et de barbe, les yeux d'un bleu foncé, la tête haute, sans morgue ni raideur, la bouche souriante, la marche délibérée, indice de ce contentement intérieur, d'où naît la confiance joyeuse et inaltérable. Il y avait en lui une grande expansion de cette puissance vitale, qui se traduit dans les actes de l'existence par le courage et la générosité. Après s'être fait connaître comme peintre de réelle valeur, il s'était décidé à quitter le Canada pour les États-Unis, Québec pour Chicago. Son père, un officier, n'avait laissé en mourant qu'un très mince patrimoine, et s'il prétendait conquérir la fortune, c'est plus encore pour sa mère que pour lui. Bref, lorsqu'il fut constaté que Max Réal ne se trouvait pas au numéro 3997 de Halsted Street, il n'y eut point lieu d'interroger Tommy à son sujet. Le Chicago Globe en savait assez pour satisfaire la curiosité de ses lecteurs en ce qui concernait le jeune artiste. Si Max Réal n'était pas à Chicago aujourd'hui, il y était hier, et assurément il serait de retour le 15 avril, ne fût-ce que pour assister à la lecture du fameux testament et compléter le groupe des six dans la salle de l'auditorium. Ce fut tout autre chose lorsque les reporters du Daily New Record se présentèrent au domicile d'Harris T. Kimball. Celui-là, il n'aurait pas été nécessaire d'aller le relancer à son domicile, Milwaukee Avenue 213, et il serait venu de lui-même se livrer à ses confrères. Harris T. Kimball était un journaliste, le chroniqueur en chef de la si populaire Tribune. 37 ans, taille moyenne, robuste, figure sympathique, un nez de fureteur, de petits yeux perçants, de fines oreilles faites pour tout entendre, une bouche impatiente faite pour tout répéter. Il était vif comme salpêtre, actif, débrouillard, remuant, loquace, endurant, infatigable, énergique, et même grand monteur de bluffs, qui sont les gasconnades américaines. Ayant le sentiment bien précis de sa force, se tenant sans cesse dans l'attitude de l'action, doué d'une volonté persistante, toujours prête à se manifester par des actes de vigueur, il avait voulu rester célibataire, comme il convient à un homme qui escalade quotidiennement les murs de la vie privée. Un brave compagnon, en somme, très sûr, très estimé de ses confrères, et auquel on envierait cette bonne fortune qu'il appelait à figurer parmi les six, en admettant qu'ils dussent réellement se partager les biens terrestres de William J. Hyperbone. Non, inutile d'interroger Harris T. Kimball, car ce fut lui qui s'écria tout d'abord. « Oui, mes amis, c'est bien moi en personne, qui fais partie du conseil des six. Vous m'avez vu hier marcher à mon rang près du char. Avez-vous observé mon attitude, digne et convenable, et le soin que je mettais à ne point laisser déborder ma joie, bien que de ma vie je n'eusse assisté à de si riantes funérailles. Et quand je songe qu'il était là, près de moi, couché dans son cercueil, cet excentrique défunt, et savez-vous ce que je me disais? Et s'il n'était pas mort, le digne homme? S'il allait appeler du fond de sa bière? S'il allait apparaître dans toute sa vitalité? Eh bien, vous me croirez, je l'espère. Cela serait arrivé, William J. Eberbone se fût redressé de toute sa hauteur, comme un nouveau Lazare en rupture de tombe, que je n'aurais pas eu la mauvaise pensée de lui en vouloir, de lui reprocher son intempestive résurrection. On a toujours le droit, n'est-il pas vrai, de ressusciter, à condition de ne point être mort. Voilà bien ce que dit Awiste Kimball, mais il aurait fallu l'entendre. « Et que pensez-vous, lui demanda-t-on, de ce qui arrivera le 15 avril ?»«
Il arrivera, répondit-il, que maître Thornbrock ouvrira le testament à midi précis. »
Et vous ne doutez pas que les 6 seront déclarés les seuls héritiers du défunt.
Naturellement. Pourquoi, je vous prie, William J. Eberbone nous aurait-il conviés à ses obsèques, sinon pour nous laisser sa fortune?
Que sait-on? Il ne manquerait plus qu'il nous eût dérangés sans dédommagement. Songez donc, 11 heures de cortège.
Mais n'est-il pas supposable que le testament contiendra des dispositions plus ou moins bizarres?
C'est probable. Et étant donné l'original, je m'attends à quelque originalité.
Eh bien, si ce qu'il demande est possible, ce sera fait. Et si c'est impossible, comme on dit en France, ça se fera. Dans tous les cas, mes amis, vous pouvez compter sur Awiste Kimball. Et il ne reculera pas d'une semelle.
Non, pour l'honneur du journalisme, il ne reculerait pas. Qu'ils en fussent bien certains, ceux qui le connaissaient, et aussi ceux qui ne le connaissaient pas, s'il s'en fût trouvé dans la population chicagoise. N'importe, les conditions imposées par le défunt, le chroniqueur en chef de la tribune les acceptait et les remplirait jusqu'au bout. S'agit-il de partir pour la lune? Il partirait. Et à moins que la respiration lui manquât faute d'air, il ne s'arrêterait pas en route.
Quel contraste entre cet Américain si résolu et son co-héritier pour un 6e, désigné sous le nom d'Herman Tilbury, lequel demeurait dans ce quartier commerçant, traversé du sud au nord par la longue chaussée de Wobey Street. Lorsque les envoyés de la Stadtzeitung eurent sonné à la porte du numéro 77, ils ne parvinrent pas à en franchir le seuil. « Monsieur Herman Tilbury, dirent-ils à travers l'entrebâillement, est-il chez lui ?»«
Oui,
répondit une espèce de géante, mal coiffée, mal tenue, une sorte de dragon femelle.
« Peut-il nous recevoir ?»
Je vous ferai réponse lorsque je l'aurai demandé à Miss Tilbury.
Car il existait une Miss Kate Tilbury, âgée de 50 ans, soit 2 ans de plus que son mari. Et la réponse que fit cette matrone et que transmit fidèlement la servante fut « Monsieur Tilbury n'a point à vous recevoir, et il s'étonne qu'on se permette de le déranger. » Il n'était pourtant question que d'avoir accès dans son bureau, non dans son dining room, de lui demander quelques renseignements sur sa personne, non de prendre place à sa table. Cependant, la maison demeura close, et les chroniqueurs de la Stadtzeitung durent revenir bredouille. Herman Tilbury et Kate Tilbury formaient bien le ménage le plus avare qui se fût jamais accouplé pour traverser de conserve cette vallée de larmes, dont il n'avait d'ailleurs jamais versé la moindre goutte, en s'apitoyant sur le sort des malheureux. C'étaient deux cœurs arides, insensibles, faits pour battre à l'unisson. Très heureusement, cette union, le ciel avait dédaigné de la bénir, et leur lignée s'éteindrait en eux. Riches, leur fortune ne venait ni du commerce ni de l'industrie. Non. Tous deux, car la dame y avait travaillé autant que le monsieur, s'était livré aux affaires interlopes des petits banquiers, des prêteurs sur gage, des acheteurs de créances à vil prix, des usuriers de bas étage, de ces loups-cerviers qui dépouillent les gens en se tenant toujours dans les limites de la légalité. Cette légalité, a dit un grand romancier français, qui serait une belle chose pour les coquins, si Dieu n'existait pas. En remontant l'échelle de leurs ancêtres, et presque dès les premiers échelons, on eut rencontré les ascendants d'origine allemande, ce qui justifiait ce prénom d'Hermann, porté par le dernier représentant de cette tribu teutonne. C'était un homme gros et court, roux de barbe, comme sa femme était rousse de cheveux. Une santé de fer leur avait permis à tous les deux de ne jamais dépenser un demi-dollar en drogue de pharmacien ou en visite de docteur. Pourvus d'un estomac capable de tout digérer, tels que les honnêtes gens devraient être seuls à en avoir. Ils vivaient de rien, et leurs servantes s'accommodaient de ce régime. Depuis que M. Tidbury s'était retiré des affaires, ils n'avaient plus eu de relations au dehors et se laissaient complètement mener par Miss Tidbury, une maîtresse-femme aussi détestable qu'on peut l'être et qui couchait avec ses clés, suivant l'expression populaire. Le couple occupait une maison à fenêtres étroites comme leurs idées, grillagées comme leur cœur, et qui ressemblait à un coffre-fort à secret. Du reste, leur porte ne s'ouvrait ni pour un étranger, ni pour un membre de la famille, faute de famille, ni pour des amis, puisqu'ils n'en avaient jamais eu. Et cette fois, ce fut devant les dépités chercheurs d'informations qu'elle demeura obstinément close. Il est vrai, sans interviewer directement les époux Tidbury, rien de plus aisé que d'apprécier leur état d'âme, du jour où ils prirent place dans le groupe des six. Quel effet, lorsque Hermann Tidbury lut son nom dans le fameux numéro de la tribune du 1er avril. Mais n'y avait-il pas d'autres Chicagois de ce nom? Aucun, du moins au 77 de Robe Street. Quant à admettre qu'il risquait d'être le jouet d'un mystificateur, allons donc. Hermann Tidbury se voyait déjà en possession du sixième de l'énorme fortune, et son grand regret, son dépit même, c'était de n'avoir pas été seul désigné par le sort. Aussi était-ce plus que de l'envie qu'il éprouvait pour ses cinq autres cohéritiers, c'était de la haine. D'accord là-dessus avec le commodore Hurricane. Et ce que Miss Tidbury et lui pensaient de ces intrus, mieux vaut le laisser imaginer au lecteur. Certes, le sort avait commis une de ces grossières erreurs dont il est coutumier, en appelant ce peu intéressant, ce peu sympathique personnage à recevoir une part de l'héritage de William J. Hyperbone, si tant est que cela fût entré dans les intentions de cet original. Du reste, le lendemain des funérailles, dès 5 heures du matin, monsieur et madame Tidbury avaient quitté leur demeure, s'étaient rendus au cimetière d'Oxwoods. Là, ils avaient fait lever le gardien, et d'une voix où se sentait la plus vive inquiétude, « Rien de nouveau ?» « Cette nuit ?» demandèrent-ils. « Rien de nouveau, » répondit le gardien. « Ainsi, il est bien mort. Aussi mort qu'on peut l'être, soyez tranquille, » déclara le brave homme, qui attendit vainement quelque gratification pour sa bonne réponse. « Tranquille, oui, en effet. Le défunt ne s'était pas réveillé de l'éternel sommeil, et rien n'avait troublé le repos des sombres hôtes du champ d'Oakwood. Monsieur et madame Tidbury rentrèrent chez eux. Mais une fois encore dans l'après-midi et dans la soirée, puis le lendemain, ils refirent la longue route afin de s'assurer par eux-mêmes que William J. Hyperbone n'était pas revenu en ce monde sublunaire. En voilà assez sur ce couple destiné à figurer dans cette singulière histoire, et auquel pas un de ses voisins ne vint adresser un compliment sur son heureuse chance. lorsque les deux reporters de la Free Press furent arrivés Calumet Street, non loin du lac de ce nom situé dans la partie méridionale de la ville, au milieu d'un quartier populeux et industriel, ils demandèrent aux agents où se trouvait la maison de Tom Crabbe. Elle portait le numéro 7, la maison de Tom Crabbe, ou à vrai dire, celle de son entraîneur. En effet, c'était John Milner qui l'assistait dans ses mémorables luttes, dont les gentlemen sortent le plus souvent les yeux pochés, la mâchoire démantibulée, la poitrine défoncée d'une ou deux côtes, la bouche démunie de quelques dents, pour l'honneur du championnat dans une boxe nationale. Tom Crabbe était donc un professionnel, actuellement le champion du Nouveau Monde, depuis qu'il avait vaincu le fameux Fitzsimmons, lequel avait vaincu cette année le non moins fameux Corbett. Les informateurs pénétrèrent sans difficulté dans la maison de John Milner et furent reçus au rez-de-chaussée par ledit entraîneur, un homme de taille moyenne, d'une maigreur invraisemblable, la peau sur les os, mais tout muscle, tout nerf, le regard perçant, les dents aiguës, la face glabre, d'une agilité de chamois, d'une adresse de singe. « Tom Crabbe ?» lui demanda-t-on. « Il est en train d'achever son premier déjeuner, » répondit-il d'une voix aigre. « Peut-on le voir ?»« À quel propos ?»« À propos du testament de William J. Hyperbone et pour parler de lui dans notre journal. » « Quand il s'agit de parler de Tom Crabbe, » répliqua John Milner, « Tom Crabbe est toujours visible. » Les reporters entrèrent dans la salle à manger et se trouvèrent en présence du personnage. Il avalait sa 6e tranche de jambon fumé, son 6e chanteau de pain beurré, sa 6e pinte d'Alf and Alf, en attendant le thé qui infusait dans la grosse bouilloire, et les 6 petits verres de whisky qui terminaient d'ordinaire son premier repas, celui qu'il prenait à 7h30, lequel devait être suivi de 5 autres au cours de la journée. On voit le rôle important que jouait le chiffre 6 dans l'existence du fameux boxeur. Et peut-être était-ce à sa mystérieuse influence qu'il devait de compter dans le groupe des héritiers de William J. Hyperbone. Tom Crabbe était un colosse, dépassant de 10 pouces les 6 pieds anglais et mesurant 3 pieds d'une épaule à l'autre. Une tête volumineuse, aux cheveux durs et noirs, presque ras tondu sur le crâne, de gros yeux bêtes de bœuf sous d'épais sourcils, le front bas et fuyant, les oreilles décollées, les maxillaires prononcées en gueule, une forte moustache coupée à la commissure des lèvres, toutes ses dents, car les formidables coups de poing ne lui en avaient pas enlevé une seule, un torse comme un muide de bière, des bras comme des bielles, des jambes comme des piliers, faite pour supporter cette énorme architecture humaine. Humaine, est-ce bien le mot ? Non, animal, car il n'y avait que de l'animalité dans ce gigantesque produit. Ses organes opéraient comme ceux d'une machine lorsqu'on les mettait en jeu. Une machine qui avait pour mécanicien John Milner. Il était célèbre dans les deux Amériques et ne se doutait guère de sa célébrité. Manger, boire, boxer, dormir, à cela se bornaient les actes de son existence, sans aucune dépense intellectuelle. Comprenait-il ce que la chance venait de faire pour lui en l'introduisant dans le groupe des 6 ? Savait-il à quel propos, la veille, il avait marché de son pas pesant près du char funèbre aux applaudissements de la foule ? Vaguement, mais son entraîneur le comprenait en son lieu et place, et tous les droits dont il serait redevable à ce coup de fortune, John Milner saurait bien les faire valoir à son profit. Il suit de là que ce fut ce dernier qui répondit à l'interview des reporters au sujet de Tom Crabbe. Il leur fournit tous les détails de nature à intéresser les lecteurs de la Free Press. Son poids personnel, 533 livres avant ses repas et 540 après, sa taille, exactement les 6 pieds 10 pouces, comme il a été dit, sa force, mesuré au dynamomètre 75 kg, celle d'un cheval vapeur. Sa puissance maximale de contraction aux mâchoires, 234 livres. Son âge, 30 ans, 6 mois et 17 jours. Ses parents, un père qui était packer ou tueur aux abattoirs de la maison Armour, sa mère qui avait été lutteuse foraine au cirque Swansea. Et que pouvait-on demander de plus pour écrire un article de 100 lignes sur Tom Queb ?
Il ne parle guère, fit observer un des journalistes.
Le moins possible, répondit John Milner. À quoi bon s'user la langue ?
Peut-être ne pense-t-il pas davantage ?
À quoi lui servirait de penser ?
À rien, monsieur Milner.
Tom Queb n'est qu'un point, ajouta l'entraîneur. Un point fermé, aussi prompt à l'attaque qu'à la riposte.
Et lorsque les reporters de la Free Press furent sortis,
« Une brute !» dit l'un.
« Et quelle brute !» répondit l'autre.
Et assurément, ce n'était pas de John Milner qu'il voulait parler. Lorsqu'on se transporte vers le nord-ouest de la ville, après avoir dépassé le boulevard Humboldt, on pénètre dans le 27e quartier. Ici, l'agitation est moins grande, la population moins affairée. Le visiteur pourrait se croire en province, bien que cette locution n'ait aucune signification aux États-Unis. Au-delà de Wabansia Avenue, se rencontre la partie inférieure de Sheridan Street. En allant jusqu'au numéro 19, on se trouve devant une maison de modeste apparence, à 17 étages, peuplée d'une centaine de locataires. C'est là, au 9e, que Lizzie Wagg occupait un petit appartement de 2 pièces où elle ne rentrait qu'après sa journée faite dans les magasins de nouveautés de Marshall Field, comme sous-caissière. Lizzie Wagg appartenait à une honorable et peu aisée famille dont il ne restait plus qu'elle. Aussi, bien élevée, instruite comme le sont la plupart des jeunes filles américaines, après des revers de fortune et la mort de son père et de sa mère prématurément enlevée, avait-elle dû demander au travail les moyens de suffire à son existence? En effet, M. Wagg s'était vu dépouillé de tout ce qu'il possédait dans une malheureuse affaire d'assurance maritime, et la liquidation poursuivie en vue des intérêts de sa fille n'avait donné aucun résultat. Lizzie Wagg, douée d'un caractère énergique, d'un jugement sûr, d'une intelligence pénétrante, calme et maîtresse d'elle-même, eut assez de force morale pour ne point perdre courage. Grâce à l'intervention de quelques amis de sa famille, elle fut recommandée au chef de la maison Marshall Field, et depuis 15 mois, elle y avait acquis une situation avantageuse. C'était une charmante jeune fille qui venait d'atteindre sa 21e année. Taille moyenne, cheveux blonds, yeux bleu foncé, belle carnation qui indique la bonne santé, démarche élégante, physionomie un peu sérieuse, qu'animait parfois un sourire à travers lequel étincelaient de jolies dents. Aimable, affable, obligeante, serviable, bienveillante, elle ne comptait que des amis parmi ses compagnes. Des goûts très simples, très modestes, sans ambition, sans jamais s'abandonner à des rêves où tant d'autres s'égarent, Lizzie Wagg fut certainement, et de beaucoup, la moins émue des 6 lorsqu'elle apprit que le sort l'appelait à figurer dans le cortège funèbre. D'abord, elle voulut refuser. Cette sorte d'exhibition ne lui allait nullement. Son nom et sa personne exposés à la curiosité publique, cela lui inspirait une répugnance profonde. Il fallut qu'elle fît violence à ses sentiments, des plus honorables d'ailleurs, et ce fut le cœur gros, le front rougissant, qu'elle prit place près du char. Il convient de dire que la plus intime de ses amies avait tout fait pour vaincre sa résistance. C'était la vive, la joyeuse, la rieuse Jovita Foley. 25 ans, ni laide, ni belle, et elle le savait, mais la physionomie pétillante de malice et d'esprit, très fine, très déliée, d'excellente nature en somme,
et que la plus étroite affection unissait à Lizzie Wagg. Ces deux jeunes filles habitaient le même appartement, et après la journée passée dans les magasins de Marshall Field, où Jovita Foley était première vendeuse, elles rentraient ensemble. On les eut rarement vues l'une sans l'autre. Mais si Lizzie Wagg, en cette circonstance, finit par céder aux irrésistibles sollicitations de sa compagne, elle ne consentit pas du moins à recevoir les chroniqueurs du Chicago Herald, qui se présentèrent le soir même au numéro 19 de Sheridan Street. En vain, Jovita Foley engagea-t-elle son amie à se montrer moins farouche. Celle-ci ne voulut se prêter à aucune interview. Après les reporters, ce seraient les photographes qui viendraient braquer sur elle leur indiscret objectif. Après les photographes, ce seraient les curieux de toutes sortes. Non, mieux valait fermer la maison à ces importuns. Quoi qu'en eût Jovita Foley, c'était le plus sage, et le Chicago Herald fut privé de servir à ses lecteurs un article sensationnel. « Soit !» dit Jovita Foley, lorsque les journalistes furent partis, l'oreille basse. « Tu as consigné ta porte, mais tu n'échapperas pas à l'attention publique. Ah, si c'eût été moi ! Aussi je te préviens, Lissy, que je saurais bien te forcer à remplir toutes les conditions du testament. Songe donc, ma chérie, cette part d'un invraisemblable héritage. » L'héritage, je n'y crois guère, Jovita, répondit Lizzie Wagg. Et si ce n'est là que le caprice d'un mystificateur, j'en aurai peu de regrets. Voilà bien ma Lizzie, s'écria Jovita Foley en l'attirant près d'elle. Peu de regrets quand il s'agit d'une fortune. Est-ce que nous ne sommes pas heureuses ? D'accord, mais si c'était moi, répétait l'ambitieuse jeune personne. Eh bien, si c'était toi. Et d'abord, je partagerai avec toi, Lizzie. Comme je le ferai, n'en doute pas, répondit Miss Wagg en riant des promesses éventuelles de son enthousiaste amie. Dieu, que je voudrais être au 15 avril, reprit Jovita Foley. Et combien le temps me semblera long! Je vais compter les heures, les minutes. Épargne-moi les secondes, repartit Lizzie. Vrai, il y en aurait trop. Peut-on plaisanter quand il s'agit d'une affaire si grave? Des millions de dollars qu'elle doit rapporter. Ou plutôt des millions d'ennuis, de tracas, ainsi que j'en ai eu pendant toute cette journée, déclara Lizzie Wagg. Tu es trop difficile, Lizzie. Et vois-tu, Jovita, je me demande avec inquiétude comment cela finira.
Ça finira par la fin, s'écria Jovita Foley, comme toute chose en ce monde.
Tel était donc le succinct de cohéritier. On ne doutait pas qu'ils fussent appelés à se partager l'énorme succession que William J. Hyperbone avait conviés à ses funérailles. Ces mortels privilégiés, entre tous, n'avaient plus qu'à prendre patience pendant une quinzaine de jours. Enfin, ces deux longues semaines s'écoulèrent et le 15 avril arriva. Ce matin-là, suivant la condition imposée par le testament, en présence de M. George B. Higginbotham, assisté de Maître Thornbrock, Lizzie Wagg, Max Real, Tom Crabbe, Herman Tidbury, Awis T. Kimball et Hodge Hurricane vinrent déposer leurs cartes sur le tombeau de William J. Hyperbone. Puis la pierre sépulcrale fut rabattue sur le cercueil. L'excentrique défunt n'aurait plus à recevoir aucune visite au cimetière d'Oxwoods.